Je ne peux que vous dire bonjour et vous souhaiter la bienvenue à Anglemort. Abonnez-vous, hein? Abonnez-vous. C'est toujours... quand vous vous abonnez, si vous êtes... parce que pour la plupart, vous êtes sur Spotify. Quand vous vous abonnez, vous pouvez me faire aussi une critique, hein? Vous pouvez mettre des étoiles. Quand vous vous abonnez, vous pouvez aussi cliquer sur la cloche, puis à ce moment-là, vous avez une alerte. Donc, une petite notification qui vous dit l'épisode est sorti. Puis même si vous êtes « Ah, pas besoin, moi je l'écoute des fois en rafale ou selon vos habitudes d'écoute », ben moi je vois le chiffre d'abonnement qui monte. Ça fait que c'est tout le temps encourageant. À vrai dire, les stats des écoutes en général sont le fun. Ça fait que ça, moi, j'ai aucun problème. Mais c'est quand même la norme d'inviter les gens à s'abonner. C'est un petit peu un indice que les affaires continuent d'aller de l'avant. Mon épisode d'hier a suscité chez Clo-Clo Guigui, qui est une fidèle angle mort, une réaction super intéressante, parce que rappelez-vous, hier, je vous parlais que moi, je suis convaincu, c'est pas juste une théorie, ben oui, c'est une théorie, mais que la capacité d'accepter le changement en soi, c'est un skills qui va devenir inévitable. Puis elle me disait, parce qu'elle a étudié en gestion du changement à une certaine époque, donc, elle connaît ça pour vrai, puis elle avait lu, bien entendu, des études qui étaient, elle me disait, autant canadiennes, américaines, européennes, qui disaient qu'en fin de compte, tout le monde, c'est vrai que c'est assez de base quand même, tout le monde a une capacité de changement, mais il y en a qui c'est à retardement. Puis, il y a une théorie pour ça en business, puis c'est le titre d'un livre, d'ailleurs, qui s'appelle « La stratégie du dauphin ». C'est pas mon sujet principal aujourd'hui en passant, mais je reviens là-dessus parce qu'elle m'a écrit ce matin, puis j'ai trouvé ça super intéressant, puis c'est matière à réflexion. La stratégie du dauphin, ce que ça dit, c'est que, grosso modo, entre le dauphin et le requin, ces deux mammifères qui sont... à vrai dire, le dauphin est un mammifère, mais est-ce que le requin? Non, je pense que c'est un vulgaire poisson, mais bref. Ces deux espèces de, là, sans vouloir... on va appeler ça des poissons pour les fins du propos... qui sont très dominants, hein, si on veut. C'est-à-dire que, bon, le requin, de façon très agressive, méchant, mange tout. Puis le dauphin, on a l'impression que lui, c'est comme... Il n'y a pas de problème avec personne, il fait ce qu'il veut, il va où il veut, tu sais. La différence, c'est qu'un dauphin, puis c'est reconnu, ça a l'air que ça surfe beaucoup sur les vagues, sur le courant. Alors qu'un requin, c'est tout le temps en train de dire, « OK, moi, je m'en vais là, mon sonar a décidé qu'il y avait un poisson là-bas qui vibrait, il est peut-être malade, etc. Je m'en vais là à toute vitesse. » Donc, le dauphin, lui, voit une vague qui monte, puis pour sauver son énergie, il surfe un petit peu. Puis quand la vague descend, il en spot une autre qui monte. Ça a l'air que le système marche un peu de même. En tout cas, tout le monde, l'image est là. Puis que le requin, lui, tant qu'il n'y a pas une roche d'en face, il dit « Moi, je m'en vais tout droit, puis that's it. » Puis c'est la façon, règle générale, que les gens réagissent au changement. C'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas... Mais pas tant. On change juste s'il y a un mini-problème perçu ou ressenti. Fait qu'il y a du monde qui vont dire « Hey, je vois là, qu'il y a de la glace. » Ça fait que je vais ralentir, je perçois un éventuel problème. Puis il y a du monde qui dit « Moi, je m'en fous, je suis en train de jaser. Ce risque-là me fait pas peur. » Il arrive sur la glace et là, tout à coup, ça chie. Donc, si vraiment ça patine, ils vont effectivement opérer un changement. Ils vont redresser, eux-mêmes vont être en panique. Comprenez-vous? Ça fait que toute personne a besoin d'une espèce de stimuli pour opérer un changement, pour changer le statu quo. Ceux qui sont à l'aise avec le changement, bien, ces antennes-là se font bien. Ceux qui ne sont pas à l'aise avec le changement sont réticents à faire le changement. Donc, souvent, ils le font quand le mal est déjà fait. Ça fait que, donc, c'est un peu une des conclusions qu'on peut penser, c'est-à-dire que, étude à l'appui, tout le monde finit par s'adapter à la nouveauté, mais il y a du monde qui le font en retard. Et, étant donné que tout change de plus en plus rapidement, bien, il y a peut-être du monde où c'est vraiment la douleur du changement à dernière minute va être plus grande avec les années. Très intéressant, je félicite Clo-Clo. Oui, les jumeaux Clo-Clo et Guigui. Bon, maintenant, appel à tous. Je viens d'envoyer un message audio de 2 minutes à Yann Thériault concernant mon nouveau podcast qui commence le 30 janvier avec Dompac. J'en ai parlé, le spécial du gérant. Donc, la business derrière l'humour. Puis, je me demande si je ne devrais pas investir un peu pour faire un studio chez nous. Chez nous, c'est beau, hein? Pas parce que j'ai du goût, j'ai rien choisi. J'ai acheté meublé au grand complet. Puis, mais c'est beau, tu sais. Je veux dire, je suis dans une tour, je suis haut, il y a une vue. C'est beau. Chez nous, j'aime ça. Puis à l'écran, je l'ai déjà fait. Dans le temps, j'avais fait un podcast avec Mélanie de Testostérone, avec Dompac, justement, sur Facebook, il y a à peu près 2 ans. C'est tout sur ma page Facebook. Puis c'était juste avec une GoPro. Moi, j'étais en arrière, on ne m'entendait pas. On voyait juste l'invité, ce qui n'est pas mauvais. En France, c'est assez populaire, ce concept-là. Puis là, je me dis, est-ce que je m'équipe? Parce que j'ai déjà une GoPro, puis j'ai un iPhone 14. Donc, tout ça, ça fait des vidéos impec. Sérieux, je sais bien que c'est pas nécessairement comme un studio que j'ai déjà réservé, ceci étant dit. Là. Mais je me pose quand même la question, est-ce qu'il y a un mini-investissement de temps? Où je connais pas assez ça pour savoir, bon, si on est deux caméras, comment ça marche? Il y a de la reconnaissance vocale aussi. Je sais qu'il y en a quand le micro allume la caméra, mais là, moi, ça prend une boîte. Il y a tout un bout que je ne connais pas. C'est qu'admettons que vous m'écoutez puis que vous connaissez ça. Je pense pas que personne connaisse ça plus que Yann Thériault, là, mais admettons. Ou que vous aviez une vidéo à dire, hey, regarde, check ça, tout est là-dessus. Petite vidéo de 10 minutes ou je ne sais quoi. Je me pose la question, est-ce que ça mériterait pas un petit mini-investissement pour que j'aille même pas aller? Ça se passe chez moi. J'invite les gens chez nous. Puis voilà. Ça fait que c'est le questionnement du jour que je vous partage. Il y a un article dans la presse aujourd'hui qui dit que le chemin Roxham maintenant se fait à l'envers. C'est-à-dire qu'il y a une recrudescence à cet endroit-là et autour de 1000%, 900-quelques%. Ça, c'est la personne qui est en charge du côté américain de cette section-là, un shérif quelconque, depuis un an. Ça a augmenté de, vous avez compris, là, de 10 fois. Ça fait que tu fais comme tabarouette, c'est assez spectaculaire. Même, je dis 10 fois. Quand on dit 100% d'augmentation, c'est le double. Ouais, c'est deux fois, donc 1000%. Bon, laissez faire l'autre bout, là. Mais les maths, puis moi, c'est habituellement ces deux choses. Mais c'est tout près, 900-quelques%. C'est quand même énorme. D'augmentation de l'autre bord, c'est-à-dire tout à coup du monde qui part d'ici. Puis là, dans l'article, on creuse parce qu'il y a quelqu'un qui est mort. Récemment, il y a quelques jours, ils ont trouvé quelqu'un qui est mort, qui habitait à Verdun, et c'est quelqu'un qui était arrivé. Donc, c'était un réfugié, quelqu'un qui avait demandé l'asile, puis qui s'est ramassé là, puis qui a dit tout à coup, il retourne. Puis là, l'article décrit pourquoi il y a du monde qui tout à coup arrive ici, puis font comme, dans le fond, moi, je retourne, etc. Puis mon sujet, c'est pas les motivations, whatever, c'est la notion de frontière. La notion de frontière, parce que tous ceux qui sont très pro-immigration, et notamment pro-immigration humanitaire, qui est quand même différent de l'immigration économique, vont souvent sortir l'argument qu'à partir du moment où l'immigration est trop sévère, les gens arrivent et sont dans des conditions qui sont très difficiles. Puis ça, c'est là, si tu veux, à gauche. Puis à droite, les gens répondent « Ouais, mais ils n'ont pas l'affaire à venir en partant, tu sais. » Puis ça, c'est un débat qui est valable, tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui considèrent que c'est pas tout le monde qui devrait accueillir tout le monde. Puis il y en a d'autres qui pensent qu'au contraire, c'est un geste normal. Puis quand tu as les moyens de... Là, après ça, les arguments vont, mais partout. Et probablement nulle part. Moi, je veux juste rappeler c'est quoi la notion de frontière, parce qu'il y a des gens qui remettent ça en question. C'est un peu farfelu, je pense. Je pense pas que monsieur, madame, tout le monde remet en question l'idée même des frontières, mais je veux juste rappeler que c'est intrinsèque à la vie, hein. Les frontières, là, ça peut pas ne pas exister. Puis à tous les égards, je vais vous donner un exemple hallucinant là, que j'ai appris récemment. Les arbres, la cime des arbres, donc les feuilles les plus hautes, ne se touchent pas entre elles. Si vous voyez des photos prises du ciel d'une forêt, puis une forêt de feuillus, et non pas une forêt de conifères, où là, tu sais, c'est comme les épines sont un peu pognées à pousser, où l'arbre, lui, le veut, des feuilles, ça pousse de façon très dirigées vers le soleil, puis de façon très, tu sais, si tu veux, c'est aléatoire, là, à la rigueur, là, tu sais, c'est comme, ça peut aller partout. Mais tu regardes, là, puis tu vois qu'aucune feuille touche aux feuilles de son voisin. Je ne sais pas si c'est toujours de même, mais c'est extraordinaire. C'est-à-dire que, instinctivement, le feuillage reconnaît que là, whoop-là, j'arrive sur le territoire de quelqu'un d'autre. C'est plus chez nous. Je ne vais pas aller mettre ma feuille par-dessus l'autre. Alors, qu'est-ce qui se passe? Comment ça fonctionne? Je ne le sais pas, mais c'est pour vous montrer qu'il y a plein d'exemples comme ça dans la nature. Les territoires de chasse chez les loups. L'idée des frontières, c'est intrinsèque à la vie. Alors, évidemment, on peut dire, ouais, mais nous autres, on a choisi, comme par exemple avec l'État de droit, comme par exemple à gérer la liberté d'expression, on a choisi de ne pas être dans le règne animal. Je suis le premier qui le dit haut et fort. Ça s'appelle la civilisation. On a décidé que la loi de la jungle, ça n'allait pas être la loi que nous autres, on applique. Enfin, super. Moi, je suis éminemment pour ça, bien entendu. Mais il reste que dans un système de même, comme dans un système normal, très naturel, où les forces naturelles sont en vigueur, ben, je suis désolé, mais il y a des frontières. Ces frontières-là sont discutables. L'histoire des pays, puis de la géographie, non pas de la géographie, mais des frontières comme on les connaît, donc qui définissent un pays territorialement, ben, y a un livre que j'ai lu, moi, il y a très longtemps, qui s'appelle « L'histoire », littéralement, de Arnold Toynbee. Retenez ça, c'est un des grands historiens. Arnold Toynbee, T-O-Y-N-B-E-E. C'est 12 livres qui ont été résumés en un gros livre. Puis lui, c'est un des premiers qui a amené la théorie que c'est l'histoire des civilisations qui a façonné les frontières puis les pays, et non pas l'histoire de la politique ou autre. C'est-à-dire des clashs de civilisations, comme par exemple les croisades ou peu importe, ont fait en sorte qu'à un moment donné, là, la guerre finit par arrêter, comme en Ukraine, ça va finir par arrêter. Puis là, ben, des fois, il n'y a aucun changement ou tout à coup, il y a un changement intrinsèque. Puis que ça a formé, cette histoire-là des conflits, etc., c'est l'histoire des civilisations qui se clashent, puis d'où résulte une frontière. Parce que tant que la frontière n'est pas définie, il y a tout le temps une capacité de conflit. Donc la frontière en elle-même, là, elle évite un conflit en disant « ça c'est chez vous, ça c'est chez nous ». Est-ce que par définition une frontière veut dire qu'on n'interagit pas avec les autres? C'est faux. C'est l'idée des traités, c'est l'idée de l'ONU, c'est l'idée de l'Union européenne, c'est l'idée de l'ALENA, c'est l'idée de... C'est de dire, hey, moi, chez nous, ça marche de même. D'ailleurs, dans l'article, ils disent que ce que nous autres, on a comme débat, que je trouve un peu farfelu, de dire qu'il y a une immigration illégale puis une immigration irrégulière. Le chemin Roxham, c'est pas illégal, c'est irrégulier. Bien, si c'est pas illégal, ça veut dire que le droit, il y a un trou. Parce que, je veux dire, une gifle sur la face de ma blonde, c'est pas une violence irrégulière mais légale. Non, c'est illégal. Ça fait que c'est dans tous les domaines, c'est illégal ou c'est légal. Je connais aucun autre exemple où tout à coup on dit « Ah, c'est pas illégal, c'est juste irrégulier, c'est de la sémantique totale. » Ça fait que c'est comme un peu une façon déguisée, ça c'est mon point de vue, de cacher l'idée que les frontières sont essentielles puis que chacun est libre d'y aller selon ce qu'il considère. La preuve, c'est que dans l'article de la presse, le shérif en question, qui est responsable du côté américain de la section au chemin Roxham, l'article souligne qu'eux autres n'ont pas ça, cette notion-là. Tu traverses, c'est illégal, c'est tout, c'est terminé. Puis t'es pas le bienvenu, puis voilà. Ce que tous les pays ont entièrement le droit de faire. Le Canada aussi a le droit de dire, nous autres, c'est pas comme ça qu'on fonctionne. Voilà. Mais ce que ça revient à dire, c'est quoi? Il y a une souveraineté, c'est vraiment le mot, ou est-ce qu'une frontière, ça existe? De dire, non, les frontières n'existent pas, puis il faut avoir la libre circulation, ça devient des conventions, mais tu peux pas enlever la souveraineté d'un État. Tu peux t'en libérer d'un bout en disant « Hey, on s'est fait comme un genre de deal entre nous autres. » Le libre-échange de Brian Mulroney, c'était ça. C'est-à-dire, le Canada devient pas tout à coup un État américain, mais on, dans le cas de certains exemples, dans certains cas, il y aura une fluidité, on va accepter que tout à coup, ben, ça peut traverser, puis blablabla. Et t'as ça aussi au niveau des personnes. Tu sais, l'expression « tu rentres dans ma bulle », c'est quoi ça? Tu rentres dans ma bulle, là, c'est littéralement, t'as dépassé ma frontière. Ah, je vais pas te frapper pour autant, mais il y a un ressenti clair de quelqu'un qu'on va trouver qui est à proximité trop proche, comme les arbres que je vous parlais. Puis c'est légitime. Imaginez si les gens pouvaient décider d'être à 2 pouces de votre face parce que eux autres, ça leur convient, puis quasiment de te rentrer une main en bouche parce que pourquoi pas, il y a pas de frontière. Tu sais, la pudeur, c'est quoi? C'est une frontière. C'est quoi MeToo? Le consentement, c'est quoi? C'est une frontière. C'est de dire, hey, je suis pas un bar ouvert. Si tu vas pas me pogner le cul parce que toi, tout à coup, tu dis, bon, non, mais les frontières, c'est intrinsèque. C'est le fameux ta liberté commence ou la mienne arrête et vice-versa. C'est fait que c'est quand même tout un débat assez spécial de voir que tout à coup, il y en a qui remettent en question cette idée-là. Parce qu'ils font un raccourci très vite que frontière égale repousser l'immigration égale, encore une fois, droite, extrême droite, donc nazi, Pétain, Vichy. C'est comme, non, calmez-vous. C'est, à la base, il faut juste reconnaître qu'il y a au plan individuel, il y a au plan des groupes, il y a au plan de tout, il y a ce qu'on appelle une frontière où, à quelque part, ce territoire-là, psychologique ou physique, tu peux pas l'envahir à ta guise. Après ça, on peut discuter qu'est-ce qui devrait passer de façon X, qu'est-ce qui devrait arrêter, qu'est-ce qui devrait être conditionnel. Mais une frontière, c'est quelque chose avec lequel il faut dealer parce que c'est dans l'existence même de tout l'individu, la société. Tu peux pas te passer de cette idée-là. C'est quand tu essaies de court-circuiter ça, moi, je pense que ça amène un paquet d'autres problèmes qui finalement sont discutés après plutôt que devoir être discutés avant. Voilà, mes amis. On se parle demain. Bye-bye.